Radioactive, la web radio du Collège Sport Nature.
Bonjour à tous et à toutes,
bienvenue sur Radioactive.
Nous sommes Élise et Maëlys, nous sommes les élèves de 4e A du Collège Sport Nature de la Canourgue. Nous travaillons en technologie sur les objets connectés. Aujourd'hui, ils seront le thème de notre émission.
Exactement. Alors, voici le programme. Le lecteur de musique, l'appareil photo, la télévision, la console de jeu et nous finirons par le smartphone.
Alors, sans plus attendre, nous commençons par la chronique de Joy, Chloé, Dorian, Théo sur le lecteur de musique.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'évolution des lecteurs de musique à travers les années. Joy et moi, on a préparé un petit voyage dans le temps du vinyle jusqu'au streaming. C'est parti!
Salut Chloé, alors pour commencer, on va parler des vinyles. C'est le tout premier support de musique et même si aujourd'hui on n'utilise pas trop au quotidien. C'est un peu comme un retour en arrière. Le vinyle, c'est un disque plat fait en plastique avec un sillon qui permet de capter le son. Le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment pratique à transporter. Mais il revient à la mode, les DJ l'utilisent encore beaucoup et certains collectionnent adorent ça.
Exactement. Après les vinyles, il y a eu la cassette, un autre grand classique.
Oui, mais pourrais-tu expliquer un peu mieux ce qu'est une cassette, Chloé ?
Avec plaisir. La cassette audio, inventée par Lou Hotens en 1963, c'est un support avec deux bobines sur lesquelles s'enroule une bande magnétique. C'était super pratique, on pouvait enregistrer ta musique et l'écouter partout. D'ailleurs, la cassette est devenue culte, notamment grâce aux séries comme Stranger Things ou les films Les Gardiens de la Galaxie.
Oui, Stranger Things a marqué toute une génération. Ensuite, il y a eu le CD, qui a un peu pris la relève des cassettes, non ?
Oui, le CD ! C'est Sony et Philips qui ont créé le disque compact. Sorti en 1982, il a rapidement remplacé les cassettes dans les années 90. Mais avec l'arrivée du numérique, le CD a perdu un peu de terrain dans les années 2000. Pourtant, il revient à la mode aujourd'hui, notamment grâce à la nostalgie et à des éditions spéciales d'artistes.
Oui, après tout ça, c'est le MP3 qui a débarqué. Mais qu'est-ce que c'est exactement, Chloé ?
Ah, le MP3 ! C'est un format numérique qui a révolutionné l'écoute de la musique. Né dans les années 90, il compresse les fichiers audio pour qu'ils soient plus petits et plus faciles à partager. Ce format a ouvert la voie au streaming et au téléchargement. Aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment le MP3 seul, mais c'est lui qui a tout lancé.
Et maintenant, on écoute presque tout sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. C'est un peu une révolution numérique, non ?
Oui, c'est tellement pratique. On a accès à des millions de morceaux directement sur nos téléphones, sans avoir à télécharger quoi que ce soit. C'est rapide, facile, et ça a complètement changé la façon dont on consomme la musique.
Finalement, on a fait un sacré chemin, non ? On est passé du vinyle, difficile à transporter, à des plateformes de streaming super pratiques sur nos téléphones. Une sacrée évolution.
Totalement. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, on écoutera la musique d'une manière encore plus futuriste. En tout cas, ça a été super de parler de tout ça avec toi, Joy. À bientôt !
Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un format qui a totalement révolutionné la musique numérique, le MP3. Tu te souviens quand on a découvert ce format il y a quelques années ?
Ah, totalement. C'était en 1998 et je me souviens que tout le monde commençait à télécharger des milliers de fichiers MP3 pour les mettre sur leur ordinateur. C'était le début de la fin des CD.
Exactement. Avant ça, c'est le disque, les cassettes, le bon vieux Walkman. C'est un peu un moyen pratique, non ? Le MP3, c'est vraiment le premier format à avoir tout changé. Surtout à cause de sa légèreté, c'est un fichier compressé dont tu peux avoir une tonne de musique dans un tout petit espace.
C'est clair, un fichier MP3 est généralement 10 à 12 fois plus petit qu'un fichier WAV, ce qui permet de stocker des centaines d'albums sans remplir ton disque dur. Mais bon, il y a un petit hic quand même, non ?
Oui, c'est la perte de qualité. Un fichier MP3 perd environ 90% de sa qualité de compression. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours le choix idéal pour les audiophiles, mais pour l'usage quotidien. On ne s'en rend pas souvent compte.
C'est vrai, et l'autre grand avantage, c'est que le MP3 est compatible avec presque tous les appareils. Que ce soit ton téléphone, ton ordinateur, ta voiture, il est partout. C'est ça la vraie révolution numérique.
Exactement. Et tu sais quoi ? Ça n'aurait pas été possible sans Hans-Georg Musemann et son groupe de travail. En 1998, ils ont développé ce format et en 2000, il est devenu le standard de la musique numérique. Une vraie révolution.
Il faut aussi mentionner que le MP3 a permis de donner naissance à des plateformes de téléchargement de musique, comme Napster, qui ont fait trembler l'industrie musicale.
Ah oui, Napster, ce bon vieux Napster. Mais malgré tout, avec l'arrivée des smartphones, le MP3 a un peu perdu son importance, non ? Aujourd'hui, on préfère le streaming.
Oui, mais le MP3 a marqué un tournant. Il a facilité l'écoute de musique partout et tout le temps, tout en étant facile à envoyer et à partager. C'était un peu la révolution portable de la musique.
C'est sûr. Alors pour résumer, même si le MP3 a des défauts, il a permis à tout le monde d'avoir de la musique dans la poche. Une petite révolution, non ?
Oui, une révolution légère mais puissante. Et c'est pour ça qu'on l'aime encore, même si on écoute plus souvent en streaming maintenant.
Merci. Nous continuons avec une chronique présentée par Pierre, Mathis, Luna et Agnessa.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous nous intéressons à un objet qui a profondément changé notre manière de voir et de conserver le monde, l'appareil photo. Depuis sa création au 19e siècle, l'appareil photo a évolué, passant de l'argentique au numérique, révolutionnant ainsi la photographie. Ce qui semblait être une simple capture d'image est devenu un moyen d'expression artistique et un outil essentiel dans le quotidien.
Les appareils photo modernes, qu'ils soient numériques ou hybrides, offrent des capacités impressionnantes, des captures de plus en plus performantes, des objets variés et des technologies permettant d'améliorer la netteté. Les couleurs ou la gestion de la lumière. Aujourd'hui, même le smartphone avec la caméra intégrée sont capables de rivaliser avec des appareils professionnels, offrant à chacun la possibilité de prendre des photos de qualité. Mais au-delà de la technique, l'appareil photo reste avant tout un instrument au service de l'art et de la mémoire. Chaque photo est une fenêtre ouverte sur un moment précis, capturé pour l'éternité.
Voilà, l'appareil photo est bien plus qu'un simple objet. C'est une porte vers l'immortalisation du présent.
Merci de votre attention et à très bientôt.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un sujet qui va sûrement vous faire flasher. On va parler des appareils photo qui sont, disons-le, en train de disparaître. Heureusement, on a une experte avec nous, une passionnée de photographie qui va nous éclairer sur ce phénomène. Salut Agnessa.
Salut Luna. Alors je vais te dire, c'est pas qu'ils disparaissent, c'est juste qu'ils sont en train de se numériser. Un peu comme moi, quand je cherche une photo sur mon téléphone, je suis perdue parmi toutes les photos de mon chien.
C'est sûr qu'entre les selfies, les photos de chiens et les vidéos de nourriture, on peut vite se noyer dans la mer de pixels. Mais en parlant sérieusement, l'appareil photo a une histoire fascinante. C'est un certain Nicéphore Niépce et Louis Daguerre qui l'ont inventé en 1839. Le premier modèle s'appelait le daguerréotype. Toi, Agnessa, tu savais ce que c'était ?
Bien sûr, on a un daguerréotype. C'est un peu le grand-père des appareils photo. Mais je te le dis, à l'époque, si tu voulais faire une photo, il fallait déjà avoir le temps de boire un café et encore, il n'y avait pas de filtre Insta. Ces appareils étaient énormes et prenaient des plombes à prendre une photo. Un peu comme si tu devais poser pour un portrait pendant 3 heures avec ton meilleur ami en train de dire « Tiens, tiens, fais-moi une photo, un vrai défi ».
Oui, et puis il faut dire que les progrès ont été spectaculaires. Dans les années 90, les appareils photo ont fait un vrai bond en avant. Et puis il y a eu la fameuse époque des appareils bi-objectifs. Tu te souviens ?
Ah, les appareils bi-objectifs, ce look si particulier avec deux objectifs. Un peu comme avoir deux yeux, mais tu ne vois pas ce que l'appareil voit. C'est un peu comme si tu demandais à un ami de te décrire un paysage, mais il te cache la vue. Pas très pratique pour les débutants, mais bon, c'était classe. Et puis un jour arrive le Polaroid, la révolution du développement instantané.
Oui, le Polaroid, une photo et hop, tu la tenais dans tes mains en quelques secondes. Un vrai miracle de la technologie. Mais tu sais, Agnessa, le tournant est arrivé dans les années 2000 avec l'apparition des appareils jetables. Et là, tout le monde s'est mis à prendre des photos à tout va et sans se ruiner.
Ah, les appareils jetables, avec leur pré-menu, c'était la fête, un vrai carton. Et tu pouvais les emmener partout, même en vacances ou à une fête. Sauf qu'à la fin, tu t'en trouverais avec des photos un peu floues ou carrément noires. Parce que tu avais oublié de retirer le bouchon de l'objectif. Mais c'était fun.
Exactement, et puis on a eu l'ère des appareils numériques. Plus besoin de pellicule, et on pouvait même stocker des milliers de photos sur une simple carte mémoire. Mais attention, il y a un inconvénient majeur, l'écran. C'est comme si tu prenais une photo avec ton téléphone et que l'écran te disait « Je suis là, mais je suis épuisé ». en consommant toute l'énergie du téléphone, sans parler de tous les déchets électroniques générés.
C'est ça, d'un côté c'est super pratique, mais d'un autre c'est un peu une catastrophe écologique. Un appareil photo, à l'époque, c'était souvent un investissement sur le long terme. C'est un peu une catastrophe écologique. Un appareil photo, à l'époque, c'était souvent un investissement sur le long terme. Mais aujourd'hui, les smartphones ont tout révolutionné. Il suffit d'appuyer sur un bouton et voilà, la photo est prise. C'est rapide, mais un peu trop facile, non ? Je trouve qu'on perd l'art de la photographie.
Et tu vois, c'est là que le débat est intéressant. Avec les smartphones, tout le monde devient photographe. Avant, un appareil photo servait à capturer un moment spécial, un souvenir. Mais maintenant, avec les téléphones, on prend des photos de tout et de rien. La qualité, c'est bien sûr impressionnant, mais le côté spontané, est-ce qu'on ne le perd pas un peu ?
C'est vrai, maintenant tout le monde fait des selfies à tout va. Avant, tu attendais un mois pour voir la photo de ton voyage à Paris. Aujourd'hui, tu vois la photo directement et comme un fast-food de la photo. Mais ça ne remplace pas l'émotion d'une photo prise avec un appareil qui a une âme, tu vois ?
Ah, c'est le grand débat. La technologie a ses avantages, mais il y a quelque chose de magique dans un appareil photo. Peut-être que les smartphones auront la haute définition, mais est-ce qu'ils auront la profondeur ?
Je dirais que c'est la différence entre regarder un film en streaming et voir une vieille pellicule du cinéma. L'image est peut-être plus nette, mais il y a moins d'émotions. Mais ça, ça ne s'achète pas.
Merci à toi Agnessa.
Avec plaisir Luna.
Alors pour conclure, les appareils photos sont-ils vraiment en voie de disparition ? Pas si sûr, peut-être qu'ils évoluent, mais l'art de capturer un moment spécial est loin d'être terminé.
Intéressant, et maintenant voici la présentation de la télévision avec Léa, Lucas, Romain, Élise et Maëlys.
Et bonjour tout le monde, bienvenue dans notre chronique. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne, la télévision, mais avant tout, faisons un petit retour en arrière pour savoir d'où elle vient. Vous êtes prêts pour une petite piqûre de rappel ? C'est parti.
La télévision, c'est un peu notre compagnon de tous les jours, mais elle ne date pas d'hier. C'est en 1926 qu'un ingénieur écossais, John Baird, a eu la brillante idée de créer un appareil pour regarder des images en mouvement sur un écran. Et à l'époque, attention, les images étaient en noir et blanc. C'était un peu comme regarder des vidéos YouTube sur un téléphone des années 80. Super vintage, non ? Mais la grande révolution est arrivée en 1954 avec RSA, une société des États-Unis qui a inventé la télévision en couleur. On n'était plus dans le noir et blanc, ça y est, tout est devenu plus lumineux.
Et c'est pas tout, la télévision ne s'est pas arrêtée là. En 1960, elle devient populaire et en 1964, la télé arrive en France. Imaginez, c'était comme l'arrivée de TikTok. Bon, aujourd'hui, il existe deux types principaux de télévision, les LED et les plasmas. Les télé LED, créées en 1990, ce sont un peu comme des écrans qui s'illuminent plus ou moins, en fonction de l'image. Les plasmas créés en 1946 fonctionnent avec un mélange de gaz. C'est un peu de la science-fiction, non ? Un écran qui fait des trucs chimiques dans les coulisses.
Et aujourd'hui, la télé, c'est un véritable super-héros de la technologie. On peut regarder des chaînes classiques, des émissions en direct, mais aussi Netflix, Prime Video et Disney+, et même écouter de la musique sur Spotify ou Deezer, directement sur notre écran. En plus, on peut tout contrôler à distance avec une télécommande connectée. Cela veut dire que l'on n'a plus besoin de se lever pour changer la chaîne, il suffit d'un clic. Et si on rate un épisode, on a le replay. C'est comme si la télé avait une mémoire infinie, pour ne jamais rater ce qu'on aime. On peut même Chromecaster, oui ça existe, c'est un vrai mot, et envoyer ce qu'on regarde depuis notre téléphone directement sur la télé. Magique, non ?
Mais tout ça, c'est pas sans conséquences. Si aujourd'hui la télé peut faire tout ça, elle a aussi un impact sur notre société. Vous avez déjà remarqué, les gens passent des heures à regarder leurs écrans et de plus en plus on reste chez soi. Et voilà, on devient un peu des ermites modernes. On oublie de sortir dans la rue, de rencontrer des gens, ce qui est grave. C'est qu'en plus de ça, on ne fait pas de sport. Et comme on passe des journées assis, ça commence à se voir. Au niveau de la santé aussi. Pas de muscles, un peu d'irritabilité et même une tendance à être moins sympa avec les autres. Oui, et trop de télé, ça nous rend un peu plus froid et un peu moins cool. Vous ne trouvez pas ?
Et voilà, en résumé, la télé, c'est génial pour se détendre et découvrir plein de choses. Mais attention, modération, parce qu'entre deux épisodes de série, il ne faut pas oublier de sortir, bouger et parler avec des vrais gens qui n'ont pas d'écran entre eux et nous. Merci de nous avoir écouté notre podcast. On espère que vous avez pris un peu de recul sur la magie de la télé et qu'on vous a donné envie de profiter de vos écrans, mais aussi de profiter de la vie. À bientôt sur Radioactive.
Ce fut une chronique riche en informations. Alors, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Voici la chronique de Eva, Étienne, Thelma, Mathis et Camille qui nous parleront de la console de jeu.
Bienvenue dans cette chronique spéciale. Nous allons parler de l'impact des consoles de jeu portables sur la société depuis les années 80. Aujourd'hui, on va explorer l'évolution de ces consoles, leur influence économique, environnementale et sociale, mais aussi leur côté un peu addictif. Et pour en parler, je suis entourée de nos experts du jour, Étienne, Mathis, Camille et Thelma. Commençons avec Thelma.
Merci. Alors, pour commencer, on remonte un peu le temps. En 1980, les premières consoles portables arrivent. C'était surtout pour se divertir, un peu comme un jouet électronique qu'on pouvait emmener partout. Mais voilà, avec l'arrivée de la PSP dans les années 2000, les choses ont évolué. Non seulement les jeux étaient plus nombreux, mais aussi plus variés. Et là, boum ! On a vu les premières formes d'addiction, c'est comme si on devenait un peu dépendant de la console, un peu comme de la drogue, mais version joystick.
Ah, et t'as entendu l'anecdote qui tue ? Depuis 2003, les joueurs du monde entier ont passé plus de 25 milliards d'heures sur Call of Duty, et ce chiffre dépasse carrément la durée de la vie humaine. Si on cumule tout ça, ça donne environ 3 millions d'années. Autant dire que les consoles ont bien changé notre manière de voir le temps. Et en parlant de chiffres, saviez-vous que l'industrie du jeu vidéo, rien qu'en 2023, a rapporté plus de 192 milliards d'euros ? Et en France, on a contribué à hauteur de 5,3 milliards d'euros avec des millions de joueurs. C'est fou ! Un joueur français, en moyenne, dépense environ 140 euros par an en jeux et accessoires.
Et tout ça a un coût, au sens littéral du terme. L'empreinte carbone des jeux vidéo, c'est énorme. Pour vous donner une idée, la production d'une PlayStation 4, c'est autant que 12 allers-retours Paris-Berlin en TGV. Pas génial pour notre planète, hein ?
Et en plus, les jeux vidéo peuvent avoir des impacts sur notre santé. On parle de dépendance, mais aussi de problèmes physiques, comme l'obésité, le trouble cardiovasculaire ou même des soucis de sommeil et de vision. Et le pire, c'est que certains se trouvent carrément isolés socialement. Au lieu de passer du temps avec leurs amis dans la vraie vie, ils restent scotchés à leur écran connecté avec des amis virtuels. Un peu moins réel, non ?
Bon, c'est sûr, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Camille, t'es là pour nous en parler ?
Oui, exactement. On n'est pas que des robots du gaming, hein ? Les jeux vidéo peuvent aussi avoir des effets positifs. Par exemple, s'associer à des personnages de jeu et développer des liens, même à distance. Bien sûr, le tout, c'est de ne pas confondre le virtuel et la réalité. Faut pas se laisser entraîner dans des contenus trop violents ou perdre de vue l'équilibre. Le secret, c'est d'être raisonnable et de ne pas oublier de vivre aussi dans le monde réel.
Voilà, vous l'avez compris, les consoles de jeux portables, c'est un peu comme un couteau suisse. Ça peut être génial, mais ça peut aussi avoir des effets secondaires. Tout est question d'équilibre. Merci à nos chroniqueurs Camille, Thelma, Mathis et Étienne.
Merci, et pour terminer, la chronique de Vassili, Kevin, Noémie et Janice qui parleront du smartphone.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter... Comment on est passé d'un simple téléphone au smartphone ? Un smartphone peut comporter 10 objets en un. Par exemple, il possède des jeux, peut envoyer des messages ou téléphoner. Il a une connexion internet et peut donc aller sur des réseaux, par exemple Google. On peut aussi regarder des vidéos ou écouter de la musique. Pour le quotidien, le réveil, le GPS et la calculatrice peuvent être utiles.
Le tout premier téléphone portable a été créé en 1984. Il permettait uniquement de téléphoner de n'importe où, mais le Motorola Ginatac était très gros et lourd et donc pas très pratique à transporter. C'est à partir de 2000 que le téléphone a commencé à avoir plusieurs fonctions, comme un chronomètre, la calculatrice et une fonction de rappel. Dans la même année, la capacité de prendre des photos est apparue, mais ces photos n'avaient pas une très bonne qualité. Et l'écran était tout petit. La fonction d'écouter de la musique est arrivée peu de temps après, avec la radio et les premiers fichiers MP3. BlackBerry sort des téléphones que l'on qualifiait d'ordinateurs de poche, car ils permettaient d'aller sur Internet, d'envoyer des mails, avaient un agenda, etc.
En 2007, l'iPhone de Apple a révolutionné les téléphones avec son écran tactile et la possibilité d'installer des applis. Il était plus agréable d'aller sur Internet, plus grand facilité d'utilisation des diverses fonctions. Le smartphone est né. Depuis 2007, il n'y a pas vraiment de nouveautés technologiques qui sont apparues. Les smartphones sont juste devenus de plus en plus performants. Seule nouveauté technique, les smartphones pliables créés par Samsung.
Salut à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans notre émission spéciale où aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. La pollution causée par la fabrication des smartphones. Vous le savez, ces petits objets sont devenus indispensables dans nos vies. Mais est-ce que vous savez vraiment tout ce qu'ils entraînent comme pollution ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Pour en parler, je suis accompagnée de Noémie, notre experte sur la question de l'environnement. Salut Noémie.
Salut Janice, merci de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour discuter de ce sujet super intéressant.
Alors Noémie, un smartphone, c'est petit, mais est-ce que ça pollue vraiment ?
Eh bien oui, ça pollue énormément Janice. Pour fabriquer un seul smartphone, il faut extraire des métaux rares dans des conditions souvent très mauvaises. Dans les mines, des enfants travaillent parfois et les accidents sont très fréquents. Et ce n'est pas tout, il faut faire voyager des composants autour du monde. En Chine, en Corée du Sud, mais aussi au Japon. Chaque smartphone parcourt des milliers de kilomètres, ce qui pollue énormément. Et quand on pense à l'eau, l'énergie, l'impact sur les paysages, c'est colossal.
Waouh, je n'avais aucune idée que ça pouvait être à ce point-là. Mais c'était encore pire que ça, non ?
Oui, ça l'est. Parce qu'en plus, un smartphone contient plus de 70 matériaux différents. Prenons un exemple. Imaginez qu'une classe de 30 élèves change son smartphone tous les 2 ans, ça fait 30 smartphones jetés. Pour une seule classe, vous vous rendez compte ?
Ah, c'est énorme, effectivement. Et en plus, on apprend que seulement une personne sur 10 recycle son smartphone correctement. Ça veut dire que la majorité d'entre nous les laisse dans un tiroir ou les jette. C'est vraiment inquiétant, non ?
C'est exact. Et quand on ne recycle pas les composants toxiques, les smartphones peuvent polluer la terre et l'eau. C'est pour ça qu'il est essentiel de changer nos habitudes.
Mais concrètement, que peut-on faire pour limiter toute cette pollution ?
Eh bien, le plus simple et le plus efficace, c'est de garder son smartphone plus longtemps. Pas besoin de le changer tous les 2 ans. On peut aussi le réparer au lieu de le jeter et, surtout, le recycler correctement lorsqu'il est vraiment trop vieux pour fonctionner. Chez Zest, ont un impact énorme.
Donc, même un petit geste comme garder son smartphone 1 an de plus peut faire une vraie différence, c'est ça ?
Exactement. Si chaque personne garde son smartphone 1 an de plus, on évite des millions de tonnes de déchets. Si une grande ville comme Paris faisait ça, on réduirait des milliers de tonnes de déchets chaque année. Vous imaginez l'impact positif ?
C'est impressionnant. Merci Noémie pour ces conseils précieux. Il est vraiment important de prendre conscience de l'impact qu'on a sur notre planète.
Avec plaisir. Rappelez-vous, même les petits gestes comptent.
Merci à vous tous d'être à l'écoute. À très vite.
Merci beaucoup. Voici la fin de notre émission.
Et oui, merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radioactive.
Ciao.
Ciao.
Radioactive, la web radio du Collège Sport Nature.
S'appelait le daguerréotype. Toi, Agnessa, tu savais ce que c'était ?
Bien sûr, Luna. Un daguerréotype, c'est un... Wow.
La télévision, c'est un peu comme notre compagnon de tous les jours. Elle est... Bon.
Mais tout ça, c'est pas sans...
Oui, mais pourrais-tu expliquer un peu mieux c'est... Oui, mais pourrais-tu mieux ce qu'est une classette, Chloé ? Oui, mais pourrais-tu expliquer un peu mieux ce qu'est une classette, Chloé ?
Il arrive pas.
Oui, mais pourrais-tu expliquer un peu mieux ce qu'est une cassette, Chloé ?
Totalement. Et qui sait, peut-être que dans quelques années... Enfin, c'est le moment qui en bégaye le plus. En tout cas, ça a été super de...
Passage du jour, compliqué.
Totalement. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, on écoutera la musique. En tout cas...
Ciao.
Le ciao, il est...
Ciao.